VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du vendredi 14 juillet 2023. Bonjour à toutes et à tous, en direct de Washington, Idrissa Seloudia. Tout d'abord les titres. En RDC, en opposant proche de Moïse Katumbi, le député et ancien ministre Chérubin Okende, retrouvé mort à Kinshasa. Au Sénégal, interdiction des rassemblements ce week-end pour l'investiture de l'opposant Ousmane Sonko à la présidentielle de 2024. Plus de 500 Burkinabés, dont de nombreuses femmes et enfants, ont été expulsés du Ghana voisin. Les voisins du Soudan réclament lors d'un sommet jeudi en Égypte de l'aide face à un conflit qui menace de s'étendre. Ukraine, le président américain Joe Biden juge que son homologue russe Vladimir Poutine a déjà perdu la guerre et finira par négocier. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. En République démocratique du Congo, un cadre du parti du candidat à la présidentielle Moïse Katumbi, l'opposant député et ancien ministre Chérubin Okende, a été retrouvé mort jeudi à Kinshasa, le corps criblé de balles, a-t-on appris de sources concordantes. Selon l'entourage de M. Katumbi, M. Okende s'était rendu mercredi à la Cour constitutionnelle et ses proches n'avaient plus de nouvelles de lui. Il a été retrouvé mort jeudi matin dans sa voiture sur une grande avenue de Kinshasa. Nathalie Barge fait le point.
Un premier suspect a été arrêté, a annoncé Firmin Mvonde, le procureur général près la cour de cassation, au cours d'une conférence de presse hier soir dans la capitale. Il est en train d'être interrogé, a-t-il poursuivi, en précisant que les témoignages recueillis pour l'instant ne permettent pas de dire qui serait le criminel et d'où il est venu. Cette affaire survient alors que le climat politique est très tendu à l'approche des élections prévues en fin d'année. C'est un assassinat politique, un guet-apens. Nous allons faire une enquête indépendante pour savoir la vérité. On ne fait plus confiance à nos institutions, a réagi M. Katumbi. On veut nous réduire au silence, a-t-il poursuivi. Rappelons qu'un de ses proches conseillers a par ailleurs été arrêté fin mai à Kinshasa et est détenu depuis. Le président Félix Tshisekedi a dit avoir appris avec consternation la mort de M. Okende dans des conditions tragiques et ajouté avoir enjoint à la justice de faire toute la lumière sur ce dossier afin de sanctionner les coupables de cet acte ignoble, a-t-il dit. L'Union européenne a condamné fermement l'assassinat de M. Okende et a demandé aux autorités de faire rapidement la lumière sur les circonstances de cet assassinat et de traduire les responsables en justice.
Au Sénégal, les autorités ont interdit des rassemblements du parti de l'opposant Ousmane Sonko, prévus samedi et dimanche. Elles disent craindre des heurts et troubles à l'ordre public. Mohamed Houmfa.
Un rassemblement prévu le 15 juillet devait désigner officiellement M. Sonko, candidat de son parti, le PASTEF, à l'élection présidentielle de 2024. Selon ses sympathisants, l'investiture devait se tenir samedi dans le stade Amadou Barry, dans la banlieue dakaroise, et non sur la voie publique. Des indices font croire que ces rassemblements constituent des réels risques de troubles à l'ordre public, a justifié le gouverneur de Dakar, Al-Hassan Sall, dans un communiqué interdisant les rassemblements. Des appels à travers les réseaux sociaux invitent les sympathisants de cette formation politique à investir d'ores et déjà les grands marchés et les principaux axes et lieux de rassemblement, dit le communiqué. Or, selon le gouverneur, des individus s'étaient attaqués à des biens publics et privés, des commerces et autres installations lors d'un appel à manifester de M. Sonko début juin. M. Sonko, qui fêtera ses 49 ans samedi, a été condamné il y a un mois à 2 ans de prison ferme dans une affaire de mœurs.
Sénégal toujours, une embarcation partie de ce pays est arrivée hier aux Canaries avec 41 migrants à bord. Ils ont été pris en charge par les secours alors que les sauveteurs espagnols essaient de retrouver 3 embarcations parties du même pays et portées disparues depuis fin juin. Claire Morin-Gibourg.
Selon les services de secours espagnols, ces migrants sont arrivés jeudi matin par leurs propres moyens sur une plage de l'île de Tenerife. D'après la Croix-Rouge, qui se base sur les déclarations faites par les passagers, cette embarcation était partie des côtes du Sénégal 8 jours plus tôt. Parmi les 41 migrants à bord figure au moins un mineur. Cette arrivée survient alors que les secours espagnols continuent de rechercher 3 bateaux de migrants partis eux aussi du Sénégal et portés disparus au large des Canaries, selon l'ONG Caminando Fronteras, avec plus de 300 migrants à bord. Selon les derniers chiffres du ministère espagnol de l'Intérieur, 12 704 migrants sont arrivés clandestinement en Espagne au premier semestre, dont une majorité aux Canaries, un chiffre en baisse de plus de 11% par rapport à 2022.
D'autre part, les gardes-côtes tunisiens ont annoncé jeudi avoir repêché 13 corps de migrants victimes d'un naufrage et secouru 25 migrants subsahariens au large de la ville portuaire de Sfax. Des affrontements entre des migrants et la population locale ont coûté dans cette ville la vie à un Tunisien le 3 juillet. Burkina Faso, le ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité a déclaré que 250 personnes, dont 130 enfants et 85 femmes, avaient été renvoyées du Ghana vers Dakola dans la région du centre-sud. Le point avec Michel Joseph.
Toutes ces personnes affirment qu'elles n'ont pas été autorisées à ramener leurs effets personnels ni à prendre leurs documents administratifs, indique un communiqué ajoutant qu'une délégation du gouvernement s'est rendue à Dakola. Le gouverneur de la région du sud-ouest, Bureima Sawadogo, a indiqué qu'environ 200 personnes ont été accueillies à Ouessa, la première ville après la frontière, où un centre de transit a été mis en place pour les accueillir. Dans la région du centre-ouest aussi, les autorités locales ont indiqué qu'il y avait une 60aine de personnes expulsées du Ghana. Le HCR a fait part de sa préoccupation et a appelé à mettre fin à ces expulsions. Pour sa part, le ministère ghanéen de la Sécurité nationale a réfuté ces allégations. Un processus de rapatriement a été institué pour faciliter le mouvement des Burkinabés qui souhaitent retourner dans leur pays, souligne son communiqué.
Les 7 pays voisins du Soudan ont réclamé lors d'un sommet jeudi en Égypte l'aide des bailleurs internationaux pour accueillir plus de 700 000 réfugiés de la guerre au Soudan où 87 corps ont été découverts dans une fosse commune au Darfour selon l'ONU. Les forces paramilitaires et leurs alliés ont été pointés du doigt. Le procureur de la Cour pénale internationale a annoncé dans un rapport au Conseil de sécurité de l'ONU l'ouverture d'une enquête pour crimes de guerre au Soudan, ainsi que sa grande préoccupation. L'Égypte a reçu le plus gros contingent de réfugiés avec plus de 255 000, suivi du Tchad 240 000 et du Soudan du Sud 160 000.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Après le sommet de l'OTAN à Vilnius, en Lituanie, le président russe affirme qu'une adhésion de Kiev à l'Alliance Atlantique aggravera les tensions internationales, alors que le chef de l'exécutif américain Joe Biden estime que Vladimir Poutine a déjà perdu la guerre en Ukraine, Jacques Aristide.
Je suis certain que cela n'améliorera pas la sécurité de l'Ukraine et que, d'une manière générale, cela rendra le monde beaucoup plus vulnérable et mènera à des tensions supplémentaires sur la scène internationale, a déclaré hier le président Poutine, avant d'ajouter que la menace d'une adhésion de l'Ukraine à l'OTAN était précisément une des raisons de l'intervention militaire russe dans le pays en février 2022. La livraison de nouvelles armes ne fera qu'aggraver la situation et l'aggravera pour la partie ukrainienne, ce qui ne fera qu'attiser le conflit, encore dit le maître du Kremlin. Poutine pourrait finir la guerre demain, il n'aurait qu'à dire « j'arrête », a pour sa part affirmé le président américain lors d'une visite en Finlande hier, célébrant la récente adhésion à l'OTAN du pays nordique voisin de la Russie. Mais il n'y a pas de possibilité pour lui de gagner la guerre en Ukraine, il l'a déjà perdue, a assuré Joe Biden, soulignant le manque de ressources de la Russie et ses difficultés économiques. J'espère, et c'est mon attente, que l'Ukraine fera des progrès progrès significatif dans son offensive et que cela débouchera sur un règlement négocié à un moment ou un autre, a déclaré le dirigeant américain.
L'accord sur les exportations de céréales ukrainiennes qui expire le 17 juillet au cours d'une réunion ONU Union européenne au sud de Bruxelles a déclaré jeudi la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Cette rencontre qui se déroule ce jeudi et vendredi intervient alors que le président russe Vladimir Poutine a jugé jeudi que pas une seule des demandes russes n'avait été prise en compte au cours des négociations en vue de prolonger l'accord sur l'exportation des céréales ukrainiennes. La balle est dans le camp du président Poutine, a fait valoir Ursula von der Leyen, aux côtés du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. La Minute Éco, Clermont-Ringibourg.
En Côte d'Ivoire, le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, Souleyman Diarra Souba, a inauguré une usine de fabrication de chocolat dans la zone industrielle de Yopougon. Construite par le pâtissier belge Puratos, la nouvelle chocolaterie a mobilisé 7,1 milliards de francs CFA. Ce partenariat public-privé intègre aussi la mise en œuvre de formations dans les métiers de boulangerie et de pâtisserie. Les exportations de café en Éthiopie n'ont pas atteint leur objectif annuel, générant plus de 1,3 milliard de dollars. Les problèmes de sécurité dans certaines grandes zones de culture ont entraîné une baisse de l'offre de café. Le café fait vivre plus d'un quart de quelques 120 millions d'Éthiopiens et génère jusqu'à 30% des recettes en devises. Au Cameroun, l'université de Maroua a signé avec l'État une convention de financement d'un montant de 100 millions de francs CFA. Ce financement est destiné à stimuler les projets entrepreneuriaux et doper les activités de cet incubateur de l'École nationale supérieure polytechnique.
Merci Claire. Les sports à présent avec Yacouba Ouedraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Les groupes des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, zone Afrique, sont connus.
Oui, le tirage au sort a eu lieu hier jeudi à Abidjan avec 9 billets à la clé. Si aucun groupe de la mort ne se dessine, l'Égypte devra tout de même se méfier du Burkina Faso et le Mali devra écarter le Ghana présent au Qatar pour se qualifier pour le Mondial 2026 qui va se dérouler au Canada, aux États-Unis et au Mexique. Le Maroc, devenu l'automne dernier au Qatar, la première équipe africaine à atteindre les demi-finales d'une Coupe du Monde, affrontera notamment la Zambie, le Congo et la Tanzanie. Le continent africain n'a longtemps eu que 5 représentants en phase finale des mondiales. Il profite du passage à 48 nations participantes contre 32 jusque-là. Pour augmenter son nombre de places, les 9 premiers de chaque groupe seront directement qualifiés. Les 4 meilleurs deuxièmes se disputeront des barrages dont le vainqueur tentera d'obtenir un ultime ticket via un tournoi de qualification intercontinentale prévu en mars 2026. Les éliminatoires africains sont programmés sur près de 2 ans, entre novembre 2023 et octobre 2025. Les 2 premières journées se dérouleront les 13 et 21 novembre prochains.
Basketball, place aux demi-finales de l'Afro-CAN ce vendredi.
Le Maroc affronte l'équipe championne en titre, la RDC. Hier jeudi, en quart de finale, les Lions de l'Atlas locaux se sont fait une place dans le dernier carré en disposant du Kenya 55 à 46, tandis que les Léopards locaux ont battu in extremis le Nigeria 74 à 72. La deuxième demi-finale va opposer le Rwanda à la Côte d'Ivoire. Les Rwandais ont étonnamment écarté les Angolais en quart 73 à 63. De leur côté, les Ivoiriens se sont imposés devant les Tunisiens 69 à 66.
Tennis, Jabeur de retour en finale à Wimbledon.
La Tunisienne, 6e mondiale, s'est qualifiée hier jeudi pour sa 2e finale d'affilée à Wimbledon en éliminant la Bélarusse Arina Zabalenka, 2e mondiale, 6-7, 6-4, 6-3. À 28 ans, Hans Jabeur, qui a perdu 2 fois en finale des majeurs, Wimbledon et l'US Open en 2022, tentera de remporter son premier titre de Grand Chelem samedi contre la Tchèque Markéta Vondrousova, 42e mondiale. Elle aussi en quête d'un premier titre à ce niveau. Je n'ai pas de mots, merci au public qui m'a maintenu dans le match, a lancé Jabeur après sa victoire.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
En votre compagnie, Idrissa Sédoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Nouvelle initiative au Sénégal pour lutter contre la mendicité des enfants talibés. Une campagne baptisée Walou Talibéi, ou protéger les talibés en Wolof, a été lancée dans la capitale sénégalaise. Elle est financée par l'USAID et sera mise en œuvre par l'ONG Save the Children. Mais pour Issa Kouyaté, directeur de la Maison de la Gare, une ONG basée à Saint-Louis et qui s'active dans la protection des enfants talibés, il faut d'abord appliquer la loi en la matière.
Effectivement, c'est pas pour la première fois. Je ne pense pas que ce sera aussi la dernière. Et pourquoi je suis un peu sceptique là-dessus? Il y a beaucoup de choses au préalable qu'il faudrait qu'on fasse. Tant qu'il n'y a pas de décret qui a été mis en place et qu'il n'est pas appliqué, absolument rien ne va aller.
Oui, donc la loi pour la protection des enfants existe, mais pour vous, c'est son application qui pose problème. Et pourquoi?
L'application de la loi cause problème depuis des années. Parce qu'effectivement, comme vous avez dit, monsieur, il a été question de stopper la mendicité durant le président Abdoulaye Wade. Et même d'ailleurs, durant le président Macky Sall, l'application de la loi a été vraiment mise sur le plan international pour au moins que les gens, les marabouts, les chefs religieux, tout a pu suivre. Et ça n'a pas suivi, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de mesures d'accompagnement. Pourquoi? Parce que l'application de cette loi-là vient à bout de certaines maîtres coraniques, ou bien je dirais certains chefs religieux qui défient cette application de la loi. Donc, il y a des enfants qui mendient et qui sont forcés à mendier, et qui sont, je ne dirais même pas forcés à mendier, mais qui sont forcés à porter des habits de mendiant. C'est-à-dire, avant même d'aller mendier, il faut que tu portes des habits de mendiant. C'est-à-dire, ils ont leur propre habit de travail.
Pour vous, est-ce qu'il faut renforcer la sensibilisation au niveau des foyers religieux ou il faut être répressif?
Avant tout, M. Président, la première des choses à faire, c'est de retourner à la racine, c'est-à-dire de faire un recensement déjà du nombre d'enfants. Et ce recensement-là, ça doit être une obligation dans toutes les régions du Sénégal, ratifier toutes les régions, faire un recensement, voir le nombre et en même temps voir les nationalités. La sensibilisation doit venir sur ce point-là. La formalisation de ces dara. Bien qu'on a des dara traditionnels, mais tout doit être formalisé parce que c'est une éducation. Les deux obligations, c'est l'éducation formelle, c'est l'école, mais aussi l'éducation religieuse.
Joint par Abdelrahman Dia, c'était le directeur de l'ONG, la Maison de la Gare, Issa Kouyaté.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24 heures sur 24.
La jeunesse en Afrique de l'Ouest et plus particulièrement au Sénégal est durement touchée par les conséquences dévastatrices de la drogue. Les effets néfastes se propagent dans le tissu social entraînant des ruptures familiales, des perturbations économiques et des conséquences graves sur la santé physique et mentale des jeunes. Eric Manera Kidza a joint à Dakar Mohamed Camara, chargé de programme du réseau des organisations jeunesse africaines pour atteindre des objectifs de développement durable ODD Sénégal.
Je peux dire que l'impact du trafic de drogue sur la jeunesse en Afrique de l'Ouest, en particulier au Sénégal, est vraiment énorme. Et quand on parle de ces impacts-là, c'est-à-dire que beaucoup de jeunes qui utilisent ces stupéfiants sont souvent confrontés à d'énormes problèmes, à savoir des problèmes mentales, ils sont souvent considérés à la longue d'utiliser ces produits-là, ils sont souvent fous ou folles. L'autre chose, c'est que, en fait, ça impacte leur manière de vivre, en fait. La plupart des personnes qui commencent à utiliser ces drogues-là sortent souvent ils ont d'autres fréquentations et ils ne sont pas souvent interprétés de manière bien au niveau de la société. L'autre chose, c'est que ça gâte leur manière de vivre. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas une vie assez stable à force d'être chronique à ces différentes situations. Et ces différentes causes font que ça impacte de manière directe la vie des jeunes qui les utilisent. Ce qui va forcément impacter leur pouvoir, leur capacité d'impacter leur communauté, ce qui va impacter leur capacité de rendre service à leur communauté. C'est que la plupart de ces personnes-là sont réservées à eux-mêmes et ne contribuent pas carrément au développement. Parce que quelqu'un qui n'a pas toutes ses facultés ou qui n'a pas toutes ses capacités, toutes les capacités nécessaires à rendre service, ne peut pas aider au développement de sa communauté. Et aujourd'hui, nous travaillons à ce que les jeunes puissent être des acteurs de développement, puissent être des acteurs de changement pour leur communauté. Et l'utilisation de ces différentes institutions, en fait, freine carrément la participation des jeunes au développement socio-économique de leur pays.
Et quelle est l'approche privilégiée par votre organisation pour lutter contre ce trafic de drogue et ses conséquences sur la jeunesse en Afrique de l'Ouest?
Nous, notre approche est de sensibiliser le maximum les jeunes sur les dangers de la drogue, mais surtout de les conscientiser à avoir des comportements responsables. Parce qu'aujourd'hui, un jeune, pour qu'il soit productif, il faut que ce jeune-là puisse avoir toutes ses facultés mentales, physiques et intellectuelles. Alors, quand on utilise ces différentes stupéfiants, on a ce déficit de capacité mentale, ce déficit de capacité intellectuelle et
Mohamed Camara, chargé de programme du réseau des organisations jeunesse africaine pour l'atteinte des objectifs de développement durable, ODD Sénégal.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Dans la région de Bandiagara, dans le centre du Mali, la crise sécuritaire a entraîné la fermeture de nombreux établissements touristiques. Cette année, la reprise des festivals du plateau Dogon suscite un regain d'espoir pour le retour de la paix et la relance complète des activités touristiques. De Koro, notre correspondant Tidiani Ouedraogo.
La falaise de Bandiagara est un haut lieu du tourisme qui fascinait des milliers de visiteurs chaque année. Une région qui regorge de nombreux sites touristiques, mais la situation sécuritaire a complètement secoué le secteur. Comme Hadi Gindou, beaucoup de promoteurs touristiques profitaient bien du dynamisme du secteur avant la crise sécuritaire au Mali.
Dans ma galerie, il y a de l'artisanat. Et pendant la période touristique, les touristes venaient visiter et il y a d'autres qui achetaient aussi. Bon, dans l'achat, je profitais et mes artisans qui venaient me vendre des sculpteurs, ils profitaient beaucoup. Mais depuis que le tourisme a baissé, bon, voilà des objets qui sont là et qui sont en train de pourrir.
Une situation qui a conduit beaucoup de guides touristiques au chômage. Suleiman Guiré est un ancien guide. Il était au chômage pendant des années avant de créer sa propre entreprise.
Bien avant, au moment où le pays était stable, moi je vivais du tourisme, je suis un guide touristique. Au moment où l'insécurité a envahi le Mali, on a souffert au moins 1 à 2 ans et après on s'est dit que okay, bref, il faut se débrouiller et faire quelque chose. Maintenant là, tu vois les préférés que tu vois là, maintenant actuellement c'est ce que j'ai fait moi.
Beaucoup de sites touristiques sont dans un état de dégradation avancée. Cette année, la reprise de certaines activités touristiques au pays de Gon constitue un espoir pour la région. Et Rebecca Togo ne cache pas ses sentiments.
Ça prouve que la paix est de retour progressivement. Sinon, il y a de cela quelques années, organiser un tel festival était pratiquement impossible dans notre zone ici.
Pendant une semaine, des festivaliers venus de l'intérieur du pays ont revisité la diversité du pays d'Ogon à travers chants et danses. Yabuyo Togo est une festivalière.
Je suis très contente et très ravie. Le Mali a besoin de ça aujourd'hui, là où nous sommes. Réunir ces dignes fils autour de la culture, de la paix et la cohésion sociale.
une reprise tant souhaitée pour permettre à des milliers de touristes de revisiter la beauté des plateaux de Wandesanga, les masques de Ireli et les chutes d'eau de Ndé. Tidjane Ouedraogo, Koro, VOA Afrique.
VOA Afrique, 24 heures sur 24, à Bamako, au Mali, sur 102 FM.
Gen Z, génération Z, nom donné ici aux États-Unis aux personnes nées entre 1997 et 2012. Les personnes les plus âgées de cette génération sont devenues des adultes, mais pour beaucoup, les signes traditionnels de l'âge adulte, à savoir un emploi stable et une maison, ne font pas encore partie de leur plan. Karina Bafradjian s'est penchée sur la question. Le récit est d'Arzuma Compaoré.
La génération Z, à savoir les personnes nées à partir de 1996, est un groupe plus diversifié sur le plan racial et ethnique que les générations précédentes. En tant que jeunes adultes, les Zoomers, comme on les surnomme, ont tendance à pencher vers des politiques libérales, mais ils ne sont pas non plus un ensemble homogène. Brian A. Marx, économiste politique.
La génération Z a tendance à mettre de côté l'appartenance à un parti et à se concentrer sur des questions politiques en particulier.
Les étudiants d'université qui auront le droit de voter lors de l'élection présidentielle de 2024 disent qu'ils gardent un œil sur la façon dont les politiciens réagissent à une série de décisions conservatrices de la Cour suprême des États-Unis, y compris celles sur le droit à l'avortement et les admissions à l'université. Émilie Daly qualifie ses opinions politiques de centristes.
Parce qu'à l'heure actuelle, nous sommes retournés 100 voire 150 ans en arrière à cause des questions liées à l'avortement, à la discrimination positive ou aux droits des personnes LGBTQ.
Preston Raven, étudiant en deuxième année de journalisme à Austin University, n'est pas mécontent de la récente décision de la Haute Cour de mettre fin aux admissions fondées sur la race dans les universités.
Ils devraient examiner votre candidature et se baser sur le contenu et non sur votre race. Même si je suis une personne de couleur, je pense que tout le monde devrait être sur un pied d'égalité.
Les droits des femmes et les politiques économiques pourraient influencer le vote d'Elizabeth Andrews.
Le droit à l'avortement a certainement été au centre de mes préoccupations au cours de l'année écoulée, de même que les prêts étudiants, bien sûr.
Il est toutefois trop tôt pour savoir si et comment le vote de la Gen Z pourrait influencer les résultats des élections de 2024. Andra Gillespie est professeur de sciences politiques à l'université Emory.
Entre un jeune de 20 ans et une personne de 45 ans, la personne de 45 ans ira plus facilement voter parce qu'elle a déjà fait l'expérience du vote et qu'elle comprend mieux comment la politique fonctionne.
Tout en réfléchissant aux récentes décisions de la Cour suprême, Oishi Mukopa Diaya, une étudiante de 20 ans, s'interroge sur le taux de participation de la génération Z aux élections de l'année prochaine.
Je voterai certainement, mais je pense que mes pairs sont partagés sur la question, car certains d'entre eux pensent que leur vote ne compte pas.
Alors, que peuvent faire les hommes politiques pour changer cette perception ? Roberto Destro est professeur de droit à l'Université catholique.
Ce qu'il faut faire, c'est s'asseoir et parler aux électeurs de la Gen Z. Si nous les écoutons, ils nous diront ce qui les préoccupe.
Les analystes soulignent que les nouveaux électeurs de la Gen Z, la génération Z, auront également besoin de conseils sur la manière de s'inscrire sur les listes électorales, car ils commencent tout juste à se familiariser avec le processus électoral américain.
Merci Arzuma, voilà c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Seloudia, à la mise en onde de Firmin Koyaweda, à la console Hélène. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.